De se convertir au judaïsme, à condition de visiter, au moins en songe, le paradis d'Israël pour voir s'il lui convient. Le rabbin accepte et promet à l'idolâtre de l'y conduire cette nuit même. Par des chemins boueux et défoncés, pleins d'ornières, il l'amène en rêve jusqu'à une pauvre masure éclairée par une petite veilleuse. À l'intérieur, il aperçoit un vieillard émacié, plongé dans la lecture d'un énorme grimoire. Le rabbi dit avec émotion et fierté : « C'est Rabbi Akiba, le plus grand de nos maîtres après Moïse, et il est au paradis. » « Mais, explose le païen, vous vous moquez de moi ? Ce paradis est minable et ce vieux qui a dû étudier toute sa vie, à présent, il continue ?» Justement. C'est cela sa récompense. À présent, il comprend ce qu'il lit. Cette histoire nous dit que le paradis, c'est ouvrir les Écritures, lire l'Écriture et comprendre toutes les merveilles de Dieu qui y sont cachées. Qu'aujourd'hui, Dieu creuse en nous le désir de sa parole, la soif d'être à son école, la quête de suivre sa boussole, qu'aujourd'hui, cette rencontre soit pour nous un évangile pour notre vie, une présence de Jésus-Christ réaffirmée là où deux ou trois sont réunis en son nom autour de sa parole. Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte sur le thème de l'humain. Vaste sujet. Nous parlerons donc de nous, de notre relation à Dieu, de notre relation aux autres et de notre place dans la création. Chers amis, petits et grands, jeunes et vieux, sentez-vous accueillis sur ces bancs. Marie-Vonne et moi animerons le culte, accompagnés par l'orchestre intergénérationnel de notre église, par Agnès et Antoine Troncy pour la confection et la projection du diaporama, et vous avez été accueillis par Pierrick et Christophe. Nous remercions aussi Christine qui nous a apporté ces jolies fleurs. Nous chanterons les cantiques projetées, qui sont aussi affichées au tableau. Vous pourrez aussi les retrouver dans les cantiques. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever. Alors on va d'abord faire la louange et on jouera la musique après, mais c'est super. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as créés, tu as dessiné nos visages avec tendresse, tu nous as appelés chacun par notre nom. Tu nous invites à nous mettre en route chaque jour à tes côtés, tu as des projets pour nous. Nous te remercions Seigneur pour la beauté de ta création, la joie d'y découvrir les innombrables merveilles que tu as créées, la diversité éblouissante des espèces et des visages, de nouveau sans masque. Tu nous as tout laissé, tout donné. Tu nous as laissés libres. Nous te remercions, Seigneur, pour cette confiance, car tu as choisi d'agir par nos cœurs, nos mains, nos bouches. Tu attends pour achever ton œuvre. Nous nous réjouissons, Seigneur, de cette vie que tu nous as confiée, dans laquelle tu marches avec nous, et de cette joie qui gonfle nos cœurs lorsque nous t'écoutons, te parlons, lorsque nous reconnaissons ton don. Amen. Et nous allons chanter le 5102, page 812, « Jeunes et vieux ».
Les vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles chanteront de joie. La 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 la.
Bonjour. Alors, je vais faire travailler les enfants dans un premier temps, mais si vous avez un papier et un crayon, ce sera pour tout à l'heure, les adultes. Ce n'est pas pour tout de suite. Donc, les enfants. Aujourd'hui, on a décidé, après avoir traité des thèmes des arbres, des animaux, vous rappelez, de l'eau, Aujourd'hui, c'est le thème de l'homme, avec un H majuscule. Alors, dans le livre de la Genèse, vous savez où c'est le livre qui est le premier livre de la Bible, tout au début. On parle de la création du monde et il est écrit « Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et là, vous allez voir que la Bible, c'est toujours merveilleux, parce qu'en deux petites phrases, il y a plein de questions qu'on peut vous poser, juste en deux phrases. Vous avez vu, la Bible, c'est quelque chose d'épais. Hein. C'est les livres qui sont sur la table, là. Donc là, en deux phrases, je vais déjà vous poser un peu des questions, peut-être difficiles ou peut-être pas. Quand Dieu dit qu'il créa l'être humain comme une image de lui-même, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Vous avez l'idée? Est-ce que Dieu, on le voit? Non? Alors comment on peut créer quelqu'un à l'image de quelqu'un qu'on ne voit pas, d'après vous? Il y en a qui ont des idées? Vous voyez, même les grands, ils n'ont pas la question. C'est ça qui est bien dans la Bible, c'est qu'on peut se poser des questions et la réponse, on ne l'a pas comme ça, en 2 minutes, à 10h du matin, un dimanche. Voilà. Mais je vous pose la question et puis peut-être qu'un jour, vous y reviendrez. Donc, si Dieu, on ne le voit pas, est-ce que vous savez à peu près à quoi il peut ressembler? Pardon? Un esprit? Il peut ressembler à quoi aussi? À nous tous. Est-ce que vous pensez qu'on peut voir Dieu au travers de son papa et de sa maman? Non? Oui? Oui?
Parce que moi je le vois à travers mes enfants.
Exactement. C'est comme ça qu'on dit que Dieu a créé l'homme à son image. Ben, en fait, quand on voit les êtres humains, on voit Dieu. C'est au travers de Dieu qu'on voit quelque chose qui peut ressembler à Dieu. Et d'après vous, Dieu est où?
Au ciel.
Au ciel. Et aussi partout. Qu'est-ce qu'il a dit partout? Dieu est partout. Voilà. Donc, il est dans les fleurs, il est dans la musique qu'on a entendue, il est là. Voilà, Donc ça, c'était les questions difficiles. Maintenant, les questions plus faciles. On a dit, soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Donc d'après vous, est-ce que l'homme est le champion des animaux? Est-ce que c'est le plus fort? Non? Oui? Non?
Il pense
être le plus fort. Déjà, est-ce que l'homme, c'est un animal? Oui? Non? Voilà, donc... Alors, si l'homme est un animal, c'est-à-dire qu'il est comme un animal quand il est comment? Pourquoi on dit que c'est un animal?
Parce qu'il a une raison.
Alors oui, ça c'est parce qu'il n'est pas un animal. Alors pourquoi il y en a qui ont dit que l'homme était un animal? C'est quoi? En quoi on ressemble à des animaux?
On
est méchant, mais tous les animaux sont pas méchants. Mon chat, il adore.
Il y a une pulsion de vie, de reproduction.
Voilà, ouais. Et si, alors, si on peut faire... Voilà. Et la différence, pourquoi on peut dire que l'homme n'est pas un animal, d'après vous? L'intelligence? Il est censé être intelligent.
Le langage.
Même si Francine m'a dit qu'il y a des animaux qui parlaient. En tout cas, qui communiquaient.
Même les arbres.
Voilà. En tout cas, voilà, c'est pour vous dire que là, ces deux petites phrases, je vous les ai posées à vous. Vous avez apporté quelques réponses. Si j'avais posé des questions à n'importe qui de vos parents, de vos grands-parents, ils auraient été aussi un petit peu comme ça, à se dire, ben oui, on a entendu 20 fois cette phrase, Dieu créa l'homme à son image, mais à l'image de quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on connaît. On connaît Dieu, mais on ne sait pas à quoi il ressemble. Et donc, c'est vrai qu'on le voit au travers des autres. Et c'est ça, en fait, le thème de ce culte d'aujourd'hui. Ce qu'on a dit, on traite l'être humain, ben, en fait, on traite l'être humain et de sa relation à Dieu, de sa relation à lui-même et de sa relation aux autres. Voilà, donc c'était un peu dur, hein, je suis désolée, mais voilà, c'était quand même un thème intéressant. Donc, je vous invite à vous lever pour chanter un cantique qu'on ne connaît pas, mais qui est super, qui est au 4109, à la page 574, « Vous, créature du Seigneur ». Et Andrea va jouer une fois à l'orgue, et vous verrez qu'il est facile à apprendre parce qu'on dit plein de fois « Alléluia ».
Pour sauver, pour pardonner, son message est bien reçu. Nous sommes bien d'accord. Au fond, nous avons tous besoin d'une main tendue, de pardon, du salut. Et quand Jésus parle aussi du salut de l'autre. Mais quand Jésus accueille ceux avec qui, moi, j'ai des problèmes. Mais quand Jésus raconte que le premier recevra le même salaire que le dernier. L'inverse, le dernier recevra le même salaire que le premier. C'est pas juste. Non, c'est vraiment pas juste. Au fond, lorsque Jésus ne me donne pas raison, il a tort. S'il me dérange, son message devient inadmissible. Mais Jésus ne parle pas de la justice. Il parle du royaume de Dieu. Il parle du projet de Dieu en voie de réalisation. Il ne parle pas d'un Dieu justicier. Il parle d'un Dieu autre, un Dieu qui se rend autre, un Dieu qui aime et qui pardonne. Amen. Amen. Pour accueillir cette parole qui nous pardonne tel que nous sommes debout. Recevoir le pardon de Dieu, c'est dire oui à la vie tout entière. C'est accepter de déposer devant Dieu le poids de nos soucis et nos erreurs. Hier est passé. Demain n'est pas encore. Aujourd'hui, profite de la vie que Dieu te donne. Dieu vous pardonne en Jésus-Christ alors qu'il vous conduise à dire oui à la vie tout entière. Oui, jusqu'à la vie éternelle. Nous pouvons nous asseoir. Sur un sentier raide et pierreux, j'ai rencontré une petite fille qui portait sur le dos son jeune frère. « Mon enfant, lui dis-je, tu portes un lourd fardeau ?» Elle me regarde et dit « Ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. » Je restais interdite. Le mot de cette enfant courageuse s'est gravé dans mon cœur Et quand la peine des hommes m'accable et que tout le courage me quitte, le mot de l'enfant me rappelle. Ce n'est pas un fardeau que tu portes, c'est ton frère. La fraternité, la solidarité, l'entraide, la résilience, c'est une pincée de tout ça et encore plein d'autres choses. La volonté de Dieu. Avant d'écrire, de lire les Écritures, prions. Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'enfant reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte fruit, donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Et j'invite Evelyne à venir lire les textes de ce jour.
Merci. Trois lectures nous sont proposées pour aujourd'hui et je commencerai en lisant dans Ésaïe, au chapitre 43, les versets 16 à 21. Un nouveau chemin dans le désert. Voici ce que le Seigneur déclare, lui qui a ouvert jadis un chemin dans la mer, qui a tracé un passage à travers l'eau profonde. Jadis, il a mis en marche des chars et des chevaux, des armées avec leurs corps d'élite. Celles-ci sont tombées pour ne plus se relever. Elles sont éteintes, consumées comme la mèche d'une lampe. Il déclare donc maintenant, « Ne pensez plus au passé. » Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître comme un bourgeon, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, j'ouvrirai un chemin, dans ces lieux arides, je ferai couler des fleuves. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches m'honoreront parce que j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ces lieux arides. Car je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi, et ce peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. Deuxième lecture qui se trouve dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, Philippiens. Dans la lettre aux Philippiens, pardon, au chapitre 3, les versets 8 à 14. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être reconnu juste grâce à la loi. C'est par la foi du Christ que je suis juste. Et je suis juste grâce à Dieu en m'appuyant sur la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Et j'ai l'espoir que je parviendrai, moi aussi, à la résurrection d'entre les morts. Puis troisième et dernière lecture, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 1 à 11. C'est un texte que nous connaissons peut-être un petit peu mieux que les deux précédents. Jésus et la femme adultère. Ensuite, chacun s'en alla dans sa maison. Et Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Les spécialistes des Écritures et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de tout le monde et interrogèrent Jésus. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, que dis-tu ?» Il lui posait alors cette question pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et déclara « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, ils partirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Et alors, Jésus resta seul avec la femme qui se tenait toujours au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Eh bien, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné. » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Je ne te condamne, moi. « Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais, ne pêche plus. »
Avant que les enfants partent et avant de commencer ma prédication, je souhaiterais que sur votre papier, vous puissiez écrire « D'après vous, qu'est-ce que Jésus a écrit dans le sable ? On dit qu'il a écrit deux fois dans le sable. Donc voilà. Donc les enfants, vous pourrez partir. Et si vous vous rappelez, donc Jésus, il a écrit deux fois dans le sable dans l'extrait que Evelyne vient de nous lire. Et là, vous pouvez partir dans vos groupes. Est-ce que tout le monde a un papier ? Si vous n'avez pas de papier, vous pouvez, dans votre tête, vous demander ce que Jésus a bien pu écrire dans le sable. Mais je préférerais que ce soit visuel pour que vous me montriez après. Donc, à la fin de la prédication, je reviendrai vers vous. Alors, pour revenir au texte extrait de Jean, lu ce jour par Evelyne. D'ailleurs, certains spécialistes pensent que c'est dans Luc que cet extrait aurait dû être intégré, car c'est dans Luc qu'on donne la part la plus importante aux femmes. Mais bon, bref. Je souhaitais démarrer cette prédication tout d'abord en insistant sur ce que ce texte lu aujourd'hui n'est pas. Ce n'est pas un texte sur la condamnation ou non de l'adultère. Le texte ni ne cautionne pas l'adultère, non. Ce n'est pas non plus une condamnation sévère et détaillée de l'adultère. Cette femme adultère n'est qu'un moyen trouvé par les pharisiens pour mettre à l'épreuve Jésus, le mettre face à ce qu'il pense être ses contradictions. En effet, il pense que Jésus ne peut que condamner cette femme car elle a enfreint la loi. Il souhaite que Jésus cautionne la lapidation car cette femme a fauté. C'est en fait surtout Jésus qui est soumis à la question, qui est un peu sur le banc des accusés, plus encore que la femme adultère. Et Jésus va trouver la parade, sans pour autant se positionner sur le fait de savoir si l'adultère est un péché ou non. Il n'est donc ni question de péché, ni question de pardonner ce péché d'adultère. Jésus, d'ailleurs, ne prononce aucune parole de pardon et la femme, aucune parole de repentance. Jésus lui dit seulement « Je ne te condamne pas ». Cette parole est la chute finale, est le centre du message du texte. D'ailleurs, de nombreux exégètes pensent que le « désormais ne pêche plus » ne respecte pas le sens de l'enseignement de Jésus et que cette partie aurait été ajoutée plus tardivement pour donner un sens plus moralisateur à ce passage. Avec ou non ce rajout, en tout cas, c'est un texte qui ni ne juge, ni ne condamne. Ce texte n'est pas non plus, plus globalement, un texte sur le péché, et ce, malgré les premières apparences. En effet, même si la phrase « que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre » est la phrase qui est retenue par tous, qui est la phrase qui permet à Jésus de reprendre la main, et qui est d'ailleurs la première phrase que Jésus prononce dans cet extrait. Mais il n'y a aucune définition de ce qu'est un péché. Par cette phrase « que celui qui est sans péché », Jésus interpelle chaque pharisien, chaque accusateur, pour que, individuellement, il s'interroge sur lui-même. Il fait appel à la propre conscience de chacun. Il les individualise alors qu'ils agissaient en meute. Il les désanonymise de cette foule pour que finalement, ils redeviennent des hommes. Tout à l'heure, les enfants ont tenté de répondre à la question de ce qui différencie les hommes des animaux. Quand je parle de redevenir des hommes, je pourrais dire que Jésus invite chacun à redevenir des individus qui, en toute liberté de conscience, peut se positionner par rapport à une situation et pas simplement suivre la masse, agir avec son seul instinct grégaire. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau, en reprenant l'idée d'ailleurs d'autres philosophes, avançait qu'il y a plus de différence de tel à tel homme que de tel homme à telle bête. Ce n'est donc pas tant l'entendement qui fait parmi les animaux la distinction spécifique de l'homme que sa qualité d'agent libre. Jésus, dans cet extrait, nous redonne de la liberté, nous redonne la possibilité de retrouver la liberté de renouer des liens avec l'autre, avec soi, avec Dieu. Au travers des accusateurs, il nous délivre et nous donne un nouvel angle de vue. Voilà ce qu'est ce texte. C'est un texte de libération universelle. C'est un texte de libération pour les accusateurs. En effet, Jésus ne les condamne pas. Au contraire, par sa parole, il les libère également, car ils se découvrent eux aussi sous l'empire de la loi exécutable seulement si tous l'appliquent. La loi est bien sûr légitime si elle tient compte de ses effets sur autrui. Par contre, lorsqu'on l'absolutise, sans tenir compte d'autrui, la loi devient perverse et meurtrière. Elle sert à s'auto-justifier en accusant les autres, ce qui était le cas dans ce texte. Les accusateurs, d'esclaves de la loi, s'en découvrent acteurs. Sans leur bonne foi retrouvée, la femme serait morte sous leur pierre. Cette définition de la loi est d'ailleurs précisée dans la lettre aux Philippiens, lue tout à l'heure. « Je n'ai pas la prétention d'être un homme juste grâce à la loi, c'est par la loi du Christ que je suis juste ». Ce texte est un texte de libération, évidemment, pour la femme adultère, jetée en pâture par une horde d'hommes assoiffés de justice, ici assoiffés de justice arbitraire et aveugle. Jésus délivre la femme de ses accusateurs, et une fois seule avec elle, il la délivre de sa propre auto-accusation. La femme est alors libre d'aller, de vivre, parce que libérée du jugement d'autrui et de son propre jugement sur elle-même. Dans deux semaines, nous fêterons Pâques et le tombeau vaincu. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est cette femme qui est délivrée du tombeau dans lequel on voulait l'enfermer. La vraie vie peut maintenant advenir. Aussi, peut-on dire que Jésus a vraiment ressuscité, relevé la femme en la libérant de ses accusateurs et de son auto-accusation. Ce faisant, elle est libre pour une vie nouvelle. Ce renouvellement qui était annoncé dans Ésaïe, aussi lu aujourd'hui, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, mais moi, je vais faire du nouveau. Ce texte est un texte de libération et de combat contre l'exclusion par le jugement et la condamnation par préjugé. Condamner et exclure une personne, c'est rompre définitivement toute relation avec elle, mais c'est par là même se couper de Dieu. Aimer, c'est lutter contre la séparation. L'exclusion est l'opposé de l'amour. Et pour revenir à ma toute première question, qu'est-ce que Jésus a bien pu écrire sur la terre ? Pour moi, voilà ce qu'il a écrit. Aimer. Et pour vous ? Vous pouvez me montrer ? Amour ? Oh Christophe ! On n'avait pas triché. Où est l'homme adultère ? La foi plus forte que la loi. Ils n'ont toujours rien compris, pardonne-moi la patience. Là, on voit la prof. Tout le monde a déjà péché, pourquoi devrait-elle être punie ? Dieu pardonne toujours. Alors après, je vois moins bien, donc s'il y en a qui veulent lire, parce que ça peut être vraiment... Et puis ce papier, gardez-le cette semaine avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez le lire, Pierre ? Tu peux lire ce que tu as écrit, si ça ne vous gêne pas de lire ce que vous avez écrit.
L'amour est plus fort que la mort, je suis là avec toi.
Renaud ?
La grâce.
Christine ?
Qui es-tu pour juger ton prochain ?
Mo ?
Pardon.
Richard ?
Je prends un peu d'humour. Tu devrais venir avec leurs questions.
J'ai été plus malin que vous, très bien. Est-ce que vous pouvez... Vous n'aviez pas de papier ?
J'allais réfléchir. Pas comme les bêtes.
Très bien. Derrière, vous pouvez dire ce que vous avez écrit ? Non ? Antoine ?
Père, accueille-les tous dans ton royaume.
Peu importe ce qui est écrit, les gens excités avec des pierres en main pour tuer sont intrigués. Ils se taisent, intrigués, et Jésus peut se faire entendre. Pour moi, c'est une vraie révolution des cœurs.
Bagali ? Ah, des dessins, alors.
Une croix comme rencontre et un smiley.
Ah, smiley.
Ça existait déjà, les smileys.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent lire ce qu'ils ont marqué ? Daniel.
Je vous aime.
Je vous aime. Oui. Est-ce que... Voilà. Bah, écoute, Denis.
Et l'homme, où est-il ?
Et l'homme, où est-il ? Oui, comme Anne, oui. Et les jeunes, là-haut, vous aviez pensé à quoi ? Gaston, tu avais pensé à quoi ? Tu sais pas ce qu'il a écrit ? Des dessins ? Pour leur faire peur ou pour leur donner un message d'amour plutôt ? Ah, ils s'ennuyaient ! Oui, vas-y Norbert.
Moi, je suis joué sur l'homonymie dessin et dessin IN et dessin EIN. Dessin de Dieu, dessin. Deux S-E-I-N, il nous protège de l'esprit de jugement et de l'esprit de condamnation.
Bravo à tous. En haut à droite, oui.
Est-ce que je te pardonne ?
Ah oui.
Moi, c'est inspire-moi, Père.
Merci. Je souhaitais donc terminer cette prédication avec le verset 12. Au chapitre 4 de Jean, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. Amen. Thank you.
Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le cantique 45-12 à la page 694. Est-ce que vous nous le jouez une fois avant ? Ce sera très bien. Restons debout, éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons ensemble notre foi, avec la confession de foi qui est projetée. Je crois en Dieu, que je vous invite à dire avec moi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vie et la vie. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons acquis le réflexe de prendre. Prendre le pain, prendre la nourriture et bien d'autres choses. Mais l'homme adulte doit aussi découvrir la joie de donner. La joie profonde qui est convenue dans le geste du don. Don de ce qui nous appartient et don de nous-mêmes. Véritable conversion de nos vies sur les traces du Christ qui savait si bien donner sans rien réclamer en retour. Que notre offrande soit aujourd'hui encore une étape pleine de sens sur la joyeuse route du partage et du don gratuit. Merci Éternel pour ces gestes de dons que tu suscites en chacun de nous, chaque jour et à ton service. Amen. Et maintenant, le temps des annonces avec Christophe.
Bonjour, alors c'est pas tout à fait préparé, mais je sais à peu près ce qu'il faut dire. Alors d'abord, les choses ordinaires, je vais dire, entre guillemets. Donc la chorale se réunit mardi à 19h45, non 19h15, oula. Le groupe de prière mercredi à 18h. Et puis, nous avons notre conseil presbytéral, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, le 13 avril. J'ai cru repérer d'autres trucs là-dedans, dans les trucs ordinaires, mais je ne sais plus quoi. Je pense que j'ai tout dit. La formation des prédicateurs, si quand même. La formation des prédicateurs qui aura lieu samedi 9 avril sur le thème de la prière dans le culte. Et qui aura lieu ici à Annecy, de 9h à midi, à 13h, 14h30, je ne sais plus. Bon, et puis nous avons toujours les conférences de Carême, la cinquième, qui est écoutable à quelle heure
Elle est écoutable à 16h sur France Culture, mais réécoutable à vie et téléchargeable pendant un an.
Voilà, donc en podcast. Voilà, donc alors pour la semaine qui vient. La grande semaine, la quinzaine qui vient. Donc, nous avons d'abord un culte très important, puisque nous avons le conseil presbytéral a décidé de remettre la scène en route. Donc, nous aurons un culte dimanche prochain, hein, le 10 avril, par un prédicateur qu'on connaît, mais voilà, j'ai pas le droit de dire le nom du prédicateur. Enfin, vous voyez qui ça peut être. On connaît très bien. Donc on fera une scène en essayant d'être le plus sûr possible, hein, par rapport à l'épidémie. On renouvellera, si ça se passe bien, si on n'a pas d'autres instructions, on renouvellera cette scène aussi le jour de Pâques. Alors donc pour la semaine, Pascal, il y a beaucoup de rendez-vous. Le 15 avril, d'abord vendredi, de 12h30 à 13h30, au Temple, la prière en commun de l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Le même jour, vendredi saint, 15 avril, la veillée de vendredi saint, à 20h30, avec musique et méditation, avec le Stabat Mater de Pergolèse. On a la chance d'avoir trois musiciens professionnels qui vont nous le donner. Mathieu à l'orgue, Mathieu Schweyer, hein, qu'on connaît très bien à l'orgue, et puis Anne Seigneur, soprano, et Anne Marchand, alto. Le texte a été écrit par la personne que je n'ai pas nommée, c'est-à-dire Charlotte Gérard. J'aurais pas dû le dire. Et le texte, ce sera moi qui le lirai. Le 17 avril, alors c'est Pâques, avec l'aube pascale œcuménique. Donc rendez-vous à 6h40 sur le parking de Sainte-Bernadette. J'ai mis sous réserve, mais je crois qu'il n'y a plus de réserve. On espère. Dimanche 17 avril à 10h, le culte qui sera présidé par le président de la Savoie. Qui nous fait le plaisir de venir présider notre culte, Philippe Dubled. C'est le culte d'offrande de printemps, donc c'est important que vous soyez présents, et si vous ne pouvez pas être présents, que vous fassiez un don généreux, parce que les finances de la paroisse sont ce qu'elles sont. On est un petit peu en retard, c'est assez traditionnel, hélas, mais voilà, on compte sur l'offrande de printemps pour rattraper le retard et pouvoir honorer nos échéances. On compte particulièrement sur les familles, hein, pour ce dimanche d'offrande. Toujours dimanche, et là, il y a une affiche dans le hall, et je vais céder la parole, je ne sais plus ton prénom,
Jérémy.
Qui va nous dire tout ce qu'il a à nous dire pour la suite du dimanche.
C'est ça.
Je suis un scout du mouvement EUDF, donc c'est le mouvement protestant ouvert à tous qui est rattaché à cette église. Et pendant ces trois dernières années, j'ai fait partie de la branche aînée, donc c'est la dernière étape du scoutisme chez les enfants. Et nous avons construit un projet d'aide sociale. Nous sommes allés aider et faire de l'animation dans un centre de demandeurs d'asile en Charente-Maritime. Et du coup, nous allons témoigner de ce projet en vous présentant ce que nous avons fait, notre expérience qui a été très constructive pour nous et ce que ça nous a apporté le dimanche 17 avril à 15h. Donc mon équipe est composée donc, de moi-même, de Mathilde Gérard, Barbara Bourguin et Justin Benoît. Donc vous êtes tous invités, toute la paroisse est invitée. Si vous voulez aussi ramener des amis à vous, des connaissances, ça vous permettra de partager un moment avec nous et peut-être de découvrir le scoutisme. Donc je vous invite à venir le dimanche de Pâques. Le témoignage se fera ici au temple. Donc voilà.
Alors j'ai juste oublié, comme la dernière fois, les merci. Donc je voudrais remercier Francine et Marie-Vonne pour avoir préparé ce culte avec toujours beaucoup d'enthousiasme. Je voudrais remercier tous les musiciens, un par un, en les regardant bien au fond des yeux, parce que c'est important. Et c'est quelque chose qui nous réjouit d'avoir autant de musiciens tous les dimanches. Et puis bien Pierrick pour être arrivé bien avant 9h je l'ai aidé à préparer ce culte.
Donc une nouvelle fois, merci à tous ceux qui ont participé à ce culte et à vous tous ici présents.
J'ai une autre annonce aussi, la fête de la paroisse le 12 juin. Donc ça va être une fête, c'est quand même bientôt. S'il y a des personnes qui ont une machine à fabriquer des barbes à papa, eh bien, vous venez vers moi, voilà, parce qu'on cherche un peu ça. Voilà. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer écrivait « Une communauté chrétienne vit de l'intercession de ses membres, sinon elle meurt. Quand je prie pour un frère, je ne peux plus, en dépit de toutes les misères qu'il peut me faire, le condamner ou le haïr. Si odieux et si insupportable que me soit son visage, il prend, au cours de l'intercession, l'aspect de frère pour lequel le Christ est mort, l'aspect du pécheur gracié. Quelle découverte apaisante pour le chrétien que l'intercession. Il n'existe plus d'antipathie, de tension, de désaccord personnel, dont pour autant qu'il dépend de nous, nous ne puissions triompher. L'intercession est bain de purification, où chaque jour le fidèle et la communauté doivent se plonger. Elle peut signifier parfois une lutte très dure avec tel d'entre nos frères, mais une promesse de victoire repose sur elle. Réjouissons-nous les uns pour les autres par la prière. Prions pour ceux qui cherchent Dieu à tâtons, qu'ils le trouvent. Pour ceux qui croient posséder Dieu, qu'ils le cherchent. Pour tous ceux qui ont peur de l'avenir, qu'ils aient confiance. Pour tous ceux qui ont échoué, qu'ils aient de nouvelles chances. Pour ceux qui doutent, qu'ils ne désespèrent pas. Pour ceux qui s'égarent, qu'ils trouvent le chemin. Pour ceux qui réussissent, qu'ils soient sans orgueil. Pour les puissants, qu'ils se sentent vulnérables. Pour tous ceux qui vivent dans ce monde, entre l'espoir et la peur, pour nous-mêmes, prions Dieu. En ces temps de guerre si proches de nous, délivre-nous de la peur paralysante et glaçante et donne-nous la force de la surmonter. Amen. Je ne suis jamais seule. Lorsque je prie le Notre Père, je pense aux millions de bouches qui ont prononcé ces paroles avec foi, les ont rendues vibrantes et vivante. Aussi, ne suis-je jamais seule et sans espérance lorsque cette prière donnée par Jésus résonne dans tout mon corps et mon cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Dieu seul peut créer, mais il vous appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, mais il vous appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire, mais il vous appartient d'être un signe de Dieu pour vos frères et sœurs. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il vous appartient de redonner confiance à vos frères et sœurs. Dieu seul peut donner d'aimer, mais il vous appartient d'apprendre à aimer vos frères et sœurs. Dieu seul peut donner la paix, mais il vous appartient de réunir. Dieu seul peut donner la force, mais il vous appartient de soutenir. Dieu seul peut donner la joie, mais il vous appartient de sourire. Dieu seul est la lumière, mais il vous appartient de la faire briller pour vos frères et sœurs. Dieu seul peut faire un miracle, mais il vous appartient d'apporter vos 5 pains et vos 2 poissons. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de chacun, chacune de nous. Amen. Seigneur, que ton esprit se répande partout, qu'il remplisse le cœur des humains, la bouche des humains, les yeux des humains, la maison des humains. Qu'il vienne sur chacun de nous ici et que ton amour sans fin nous accompagne. Et que Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons chanter le psaume 8, la page 40, la strophe 1 et 6.
Si vous pouvez reposer les stylos dans la boîte qui est à l'entrée, s'il vous plaît. Pas n'importe où, dans la boîte.